Assurance, célébrez nos 20 ans d'assurance. Découvrez votre profil en ligne sur monbonprofil.com après avoir suivi votre magazine Priorité Santé. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Une pompe qui ne se repose jamais. Oreillette, ventricule, veine, artère, le cœur est une machine de haute précision, un muscle à la fois complexe et précieux. Les défaillances et maladies liées à cet organe représentent la première cause de décès dans le monde, près du tiers. Infarctus du myocarde, angine de poitrine, athérosclérose, les cardiopathies coronariennes seraient responsables, d'après l'Organisation mondiale de la santé, de près de 7,5 millions de morts chaque année. Autre chiffre que l'OMS a publié il y a moins de 6 mois, au sujet cette fois des accidents cardiovasculaires, les AVC qui provoquent 6,7 millions de décès chaque année. Alors oui, un cœur, ça se surveille, ça se soigne et ça s'entretient, et pas seulement lorsqu'il commence à donner des signes de faiblesse. Un cœur, ça se respecte en essayant de se débarrasser de mauvaises habitudes, prévenir et savoir réagir aussi face à une urgence cardiaque, sécuriser la victime, prévenir les secours, faire les bons gestes sans délai, des gestes qui changent tout, puisque d'après la Société française de cardiologie, 4 victimes sur 5 ayant survécu à un arrêt cardiaque ont bénéficié de ces interventions précoces. On va parler traitement et prévention aujourd'hui dans Priorité Santé avec vous, professeur Jacques Blacher, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes cardiologue, spécialiste d'hypertension artérielle, chef de service du centre de diagnostic et de thérapeutique à l'hôpital de l'Hôtel Dieu de Paris. On va retrouver tout à l'heure en ligne de Thionville, en Moselle, le docteur Jean-Pierre Houpe, cardiologue, sophrologue, président de l'association Méditas Cardio, mesure d'éducation thérapeutique appliquée au stress en cardiologie. Et puis, nous allons joindre le professeur Leïla Abid, secrétaire générale de la Société tunisienne de cardiologie à Sfax. En fin d'émission, nous ferons le point sur l'association Chirurgie Solidaire avec le docteur Daniel Tallard. Il préside cette association humanitaire qui forme en Afrique francophone des chirurgiens, anesthésistes et infirmières de bloc opératoire. Et bien sûr, on attend vos questions, vos témoignages, notre page Facebook et bien sûr le numéro 33 84 22 75 75.
Priorité santé sur RFI.
Semaine du cœur à l'initiative de la Fédération française de cardiologie, avant samedi prochain, la journée mondiale du cœur. Alors avant d'évoquer les différentes pathologies cardiaques, d'aborder la question du stress et bien sûr de répondre aux questions de nos auditeurs et nos auditrices, première question, professeur Jacques Blacher, sur la prévention. Est-ce qu'on peut dire qu'en matière de santé cardiaque, il y a des comportements à risque ?
Bien sûr, bien sûr, bien sûr. On sait très bien aujourd'hui quels sont ces comportements à risque. Probablement que le plus risqué de ces comportements à risque, c'est la consommation de tabac. Et donc, on dit en cardiologie que si on n'aborde pas la consommation de tabac avec un patient fumeur, on n'a pas fait du bon travail.
Dans l'esprit du grand public, le tabac, c'est les poumons. Pourquoi le cœur ?
Le tabac va entraîner toute une série d'effets négatifs pour la santé. Bien entendu, il va augmenter le risque de cancer. Alors le cancer du poumon, mais pas seulement. Il y a aussi les cancers de la gorge, il y a aussi les cancers de la vessie. Et puis il va augmenter le risque de maladies cardiovasculaires, les infarctus d'un côté, et puis les accidents vasculaires cérébraux de l'autre côté. En fait, le tabac, comme le diabète, comme le cholestérol, comme l'hypertension artérielle, c'est un facteur de risque d'athérosclérose. C'est-à-dire que ça va modifier la composition de la paroi des artères, ça va entraîner des dépôts, on va dire des dépôts de goudron pour faire simple, au niveau de la paroi des artères, et ces dépôts vont générer potentiellement des ruptures de plaques d'athérosclérose qui vont, elles, générer des événements cardiovasculaires, des infarctus, des accidents vasculaires cérébraux. Donc le facteur de risque principal, c'est le tabac. Après, il y a toute une série de comportements qui ne sont pas favorables à la santé cardiovasculaire. C'est par exemple la sédentarité. On est fait pour bouger. Les êtres humains doivent avoir de l'activité physique, ils doivent se marcher, ils doivent courir, ils doivent faire du sport, monter les escaliers. C'est vrai que dans la vie quotidienne, eh bien, on prend très facilement l'escalator ou l'ascenseur et beaucoup moins facilement l'escalier. Et puis, il y a l'alimentation qui est un point important. On sait très bien qu'une trop forte consommation d'alcool, c'est pas bon pour la santé, notamment pour la santé cardiovasculaire. On sait très bien qu'une trop forte consommation de sel augmente le risque d'hypertension artérielle et cette hypertension artérielle augmente elle-même le risque de maladie cardiovasculaire. Et puis, parmi les aliments, eh bien, il y a des aliments qui sont meilleurs pour la santé cardiovasculaire. On dit habituellement que les fruits et les légumes sont des aliments qui sont favorables à la santé cardiovasculaire, alors que les aliments qui sont des aliments avec des graisses saturées, donc les viandes grasses, les laitages gras, sont des aliments qui sont néfastes à la santé cardiovasculaire.
Alors il y a nos habitudes, il y a nos modes de consommation, mais il y a aussi ce que l'on est. Certaines pathologies, elles, peuvent avoir un caractère héréditaire, professeur Jacques Blacher.
Effectivement, si vos deux parents ont été diabétiques, eh bien vous avez vous-même plus de probabilité d'être diabétique. C'est la même chose pour le cholestérol, c'est la même chose pour l'hypertension artérielle.
Ça veut dire que quand on a des antécédents familiaux, il faut être plus vigilant. Ça veut dire quoi? Un suivi plus précoce?
Ça veut dire que, sachant qu'on est plus à risque, eh bien, il faut penser encore plus à se préserver de la survenue des événements et donc à être encore plus ambitieux sur le contrôle des facteurs de risque cardiovasculaires. Imaginez par exemple que vous ayez des parents qui sont morts tôt dans leur vie parce qu'ils avaient des complications de leur hypertension, de leur diabète, de leur cholestérol. Eh bien vous-même, vous devez impérativement, sachant que vous avez cet effet que vous ne pourrez pas réduire, vous devez impérativement être très sérieux, par exemple sur le tabagisme. Je dis régulièrement à mes patients qu'entre les antécédents familiaux et le tabac, ils doivent choisir. Bien entendu, on ne peut pas choisir ses antécédents familiaux. Donc je leur dis ça pour qu'ils arrêtent de fumer.
Il y a un choix qui est vite fait dans ces cas-là. Alors on a parlé de l'hérédité, on a parlé des habitudes, il y a aussi les maladies associées. Vous citiez tout à l'heure le diabète. Il y a tout un tas de pathologies, en particulier des pathologies chroniques, qui sont, on va dire, une circonstance aggravante pour le cœur.
Oui, alors il y a les maladies métaboliques. Et dans les maladies métaboliques, il y a principalement le diabète et l'augmentation du cholestérol. Et puis, il y a l'hypertension artérielle, qui est une maladie à la fois cardiovasculaire, mais aussi métabolique. Et ces trois facteurs de risque cardiovasculaire vont expliquer une part importante de la survenue des maladies cardiaques.
Alors, on parle dans ces cas-là de comorbidité, ces facteurs de risque. La prévention, on va y revenir tout à l'heure, notamment avec les questions des auditeurs. Et on vous retrouve dans quelques instants, professeur Jacques Blacher.
Priorité santé sur RFI.
Et on va tout de suite évoquer un autre facteur de risque cardiovasculaire. Il s'agit du stress. Pour en parler avec nous, on rejoint à Thionville, en Moselle, le docteur Jean-Pierre Houx. Bonjour.
Bonjour à vous.
Vous êtes cardiologue, président de l'association Meditas Cardio, mesure d'éducation thérapeutique appliquée au stress en cardiologie. D'abord, expliquez-nous, docteur Jean-Pierre Houx, comment agit ce stress sur l'activité, sur la santé cardiaque?
Alors, je vais me permettre déjà de revenir un petit peu en arrière pour bien rappeler que la définition de la santé par l'Organisation mondiale de la santé, c'est un bien-être à la fois physique, mental et social. Donc, quand on parle de stress, il ne faut pas uniquement voir la question du stress comme les gens l'entendent, et c'est souvent une question fourre-tout, c'est-à-dire qu'on sait très bien, à l'heure actuelle, par tous les travaux de recherche qui ont pu être faits, qu'il y a des facteurs qui vont influencer le risque, en particulier le risque d'infarctus, des facteurs psychologiques, qui peuvent être le stress, l'anxiété, la dépression, mais également la colère, le syndrome de stress post-traumatique, le burn-out, tout ça, c'est des facteurs qui vont favoriser. Il y a des facteurs sociaux, il y a des facteurs socio-économiques. Donc c'est vraiment une myriade de problèmes et de questions. Alors, pour répondre directement à votre question, comment ça va agir? Eh bien, ça va agir de différentes façons. Les trois façons qui sont connues à l'heure actuelle, c'est que premièrement, ça va agir sur tous les facteurs de risque connus, c'est-à-dire que quand on est stressé, anxieux, déprimé, on va avoir moins d'activité physique, on va manger moins bien, on va fumer plus, voilà, il va y avoir tout un... Et ça, ce sont des actions qui sont des actions indirectes sur les facteurs de risque connue qu'a évoquée le professeur Jacques Blachet. Il y a également une manière directe, c'est-à-dire que la réaction de stress et toutes ces réactions-là vont modifier notre cerveau et on va agir comme si, notre cerveau va agir comme si nous étions en position de survie. Et on va sécréter des substances inflammatoires, des substances qui vont favoriser la coagulation. Et tout ça, ça favorise le risque d'infarctus, mais également d'autres pathologies cardiaques. Et puis la dernière façon qui est beaucoup plus, qui est moins connue, qui est plus subtile, c'est de façon génétique, c'est-à-dire qu'on sait à l'heure actuelle que le fait, par exemple, de vivre un stress extrêmement intense modifie notre épigénétique, et ça, ça peut être transmis dans les générations ultérieures. Ça a été montré par certaines études, en particulier des études hollandaises.
Ça veut dire, docteur Jean-Pierre Houb, que certaines personnes, certains profils, on peut même dire certaines professions, sont particulièrement affectées par ce stress, par ces différents stress.
Tout à fait, tout à fait. Alors, c'est ce que vous dites, c'est différentes personnes. Alors, il y a des professions. Il est certain que si vous êtes conducteur de TGV, si vous êtes pilote d'avion, si vous êtes chirurgien, si vous êtes ou dans la vie de tous les jours, tout le monde connaît bien les méfaits du stress au travail à l'heure actuelle. Donc, on va réagir de façon très variable. Et on va réagir de façon très variable parce que nos cerveaux ne sont pas identiques. Peut-être que par vos capacités personnelles, parce que vous avez appris dans votre enfance la façon dont vous avez vécu, vous avez une capacité de résilience plus importante. Et ça, c'est très important à dire. C'est-à-dire que on sait en psychologie de la santé que ce n'est pas le stress objectif qui va être le facteur de risque, c'est le stress subjectif. Pour une situation X, telle personne réagira de telle façon, sans stress, et l'autre réagira avec beaucoup de stress. C'est très subjectif.
Ça veut dire quoi? On s'en débarrasse ou on le régule, on le gère, docteur Jean-Pierre Houb? Vous êtes cardiologue, vous êtes aussi sophrologue. Est-ce qu'il y a par exemple des conseils, des outils anti-stress pour protéger son cœur?
Oui, bien sûr, il y a des outils anti-stress. C'est-à-dire que on a montré, il y a une très belle étude qui est sortie en 2017 qui montre qu'en fait, l'explication entre tous ces facteurs psychiques et l'infarctus s'explique par l'activation de notre cerveau limbique, qui est notre cerveau émotionnel. Et toute l'astuce, ça va être de faire en sorte que notre cerveau émotionnel ne soit pas activé inutilement, et on peut le réguler. On peut réguler ça, c'est-à-dire que on a un effet néfaste du stress sur la santé, mais en même temps, on a un cerveau qui est construit pour pouvoir réguler ça. Et donc, il va y avoir des exercices qui vont être des exercices de relaxation, de respiration. À l'heure actuelle, on parle beaucoup de la cohérence cardiaque, des exercices de méditation. Tout ça va apprendre à nous poser et à baisser l'activation de notre cerveau émotionnel. Alors ça, c'est pour les exercices de prévention. Alors l'activité physique, c'est également une excellente méthode de régulation. Et puis, il y a des méthodes qui vont être plus des méthodes de thérapie. C'est-à-dire, par exemple, un infarctus va à l'évidence modifier complètement la psychologie des gens, et on sait, par exemple, on a des statistiques qui nous montrent que après un infarctus, il y a environ 20% des gens qui sont dans un tableau de stress post-traumatique comme s'ils avaient été victimes d'un attentat. Et dans ce cas-là, il y a des techniques qui vont être des techniques de thérapie cognitivo-comportementale, d'hypnothérapie, il y a une nouvelle technique pour le trauma qu'on appelle l'EMDR, il y a vraiment des techniques qui sont au point. Alors, on manque encore de très grosses publications statistiques, mais tous les résultats vont dans le même sens et toutes ces méthodes sont extrêmement efficaces, et tellement efficaces que la Société européenne de cardiologie en 2012 et en 2016 a recommandé vraiment de façon forte aux cardiologues de prendre en charge cette souffrance psychologique des patients.
Merci beaucoup, docteur Jean-Pierre Houpin, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes cardiologue, président de l'association Meditas Cardio, éducation thérapeutique, pour appliquer donc au stress en cardiologie. Professeur Jacques Blachère, justement, réguler ce stress, l'évaluer, c'est quelque chose que font aujourd'hui les cardiologues, des conseils, on va dire, qui ne sont pas d'ordre proprement liés à votre spécialité, mais qui dépassent cette spécialité en expliquant aux gens que ces conditions de vie, c'est essentiel pour aller bien?
Je pense que les cardiologues s'intéressent insuffisamment au stress de leurs patients. Je pense que c'est vrai pour, d'ailleurs, la majorité des spécialistes et pas exclusivement les cardiologues. Je suis d'accord avec le docteur Hoop, à savoir que le stress est un facteur de risque cardiovasculaire. C'est aussi, il l'a très bien expliqué, un facteur de risque des facteurs de risque. À savoir que lorsque on a de l'anxiété, lorsqu'on est déprimé, lorsque la vie est extrêmement stressante, eh bien c'est vrai qu'on n'a pas la disponibilité intellectuelle pour s'occuper de soi. On n'a pas la disponibilité intellectuelle pour faire attention à ce qu'on mange, pour essayer d'arrêter la dépendance au tabac, pour faire du sport, etc., etc.
Donc, on va reparler prévention tout de suite. Hein. On donne la parole aux auditeurs de Priorité Santé.
Priorité Santé sur RFI.
Le premier de ces auditeurs nous appelle du Cameroun, de Yaoundé. C'est Guy Achille. Guy Achille, bonjour.
Bonjour Nicole.
On vous écoute.
Alors moi je suis hypertendu depuis 2007. Alors je précise quand même que je ne fume pas. Mais en 2010 je fais un AVC. Et puis depuis je suis sous traitement. Mais en 2015 je fais un infarctus du myocarde qui conduit à une intervention, une angioplastie coronaire avec pose de stent. Pour le moment, je suis un traitement depuis de triclixane, d'aldactone, de castor, d'instaclope et puis de cardégique. Mais j'ai de manière régulière des douleurs au niveau du thorax et puis des douleurs qui s'accentuent lorsque j'ai à faire un effort physique. Et donc, je suis des contrôles, et puis le médecin qui me suit me dit que il a constaté à travers les échocœurs, les échographies du cœur, que le FEFG.
Vous pouvez nous expliquer, professeur Blacher, vous nous expliquerez tout ça après.
Hein. Oui, alors le FEFG est passé de 75 à 54, puis à 25% en l'espace d'un an et demi. Donc, milieu 2017, lorsque je fais l'examen, on se retrouve à 25%. Alors, le problème aujourd'hui, c'est que j'ai posé la question au médecin. Est-ce que cette dégradation du cœur va se poursuivre? Et qu'est-ce qu'il faut donc faire éventuellement pour que ça s'estompe? Bon, il m'a dit que théoriquement...
Avant de passer la parole au professeur Blacher-Guy Achille, j'ai juste une question, votre âge.
Aujourd'hui, j'ai 46 ans. Alors, j'ai fait mon AVC, j'avais 38 ans.
Professeur Blacher, Guy Achille a énuméré ses médicaments, sa capacité cardiaque, si j'ai bien compris aujourd'hui, les différentes opérations et les différents traumatismes qu'il avait subis. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Eh bien, qu'il a eu malheureusement des maladies cardiaques très tôt dans sa vie, puisqu'il a fait un accident vasculaire cérébral. Donc, il a dit en 2010. Vous avez dit Guy Achille en 2010, c'est-à-dire en fait à 38 ans, si j'ai bien compté. Et puis ensuite, vous avez fait à 40 et quelques années un infarctus. Donc voilà, vous avez une maladie cardiovasculaire, une maladie de vos artères qui est survenue très tôt dans votre vie et qui est déjà évoluée. Alors vous avez parlé de la FEVG qui est en fait la fraction d'éjection du ventricule gauche et ça correspond à la capacité qu'a le cœur d'éjecter le sang dans le système artériel. Habituellement, à chaque révolution cardiaque, eh bien, on va éjecter 60% de la quantité du sang qui se trouve dans le ventricule gauche dans le système artériel. Et puis, lorsqu'on a fait des maladies cardiaques, lorsqu'on a fait des infarctus, lorsqu'on a de l'insuffisance cardiaque, eh bien, ce n'est plus 60%, mais c'est moins, c'est 50%, c'est 25%, comme actuellement vous, Guy Achille.
Ça veut dire que le cœur se fatigue davantage pour éjecter la même quantité de sang? Qu'est-ce qui se passe?
En fait, ça veut dire que le cœur n'est plus capable d'éjecter le 60% de son volume à chaque contraction. Et donc, il ne va éjecter que 25% de son volume. Et c'est pour ça qu'on est dans une situation d'insuffisance de la fonction cardiaque. Alors, pour pallier à cela, eh bien, le cœur va se dilater. Parce que augmenter la quantité de sang, parce qu'il faut que le sang arrive aux organes pour avoir une perfusion normale du cerveau et des autres organes, eh bien le cœur se dilate pour que le 25% de son volume équivale à 60% d'un plus petit volume. Et puis il peut aussi s'accélérer encore une fois, pour augmenter la quantité de sang qui parvient aux organes.
Guy Achille a énuméré toute une série de médicaments qu'il prenait. Est-ce que tout cela peut réguler, stabiliser ?
Alors, ça c'est l'élément que je trouve rassurant, qui est que dans les médicaments que vous avez énoncés, Guy Achille, il y a les bons médicaments qui réduisent l'évolutivité de votre maladie cardiovasculaire. Vous avez parlé du triplexam, du Taor, de l'aspirine, de l'aldactone. Tout ça, ce sont des médicaments qui ont démontré qu'ils réduisaient la survenue des complications et qu'ils prolongeaient la vie des patients qui avaient, comme vous, une maladie cardiovasculaire. Alors après, il faut bien entendu que vous soyez suivi de façon extrêmement précise, régulière, je dirais fréquente, par votre cardiologue, car vous avez une maladie cardiaque qui est relativement évoluée, avec 25% de fraction d'éjection, et donc il y aura, dans les années qui viennent, des ajustements thérapeutiques à faire régulièrement. On se posera la question de savoir s'il faut maintenir l'aspirine ou vous donner un traitement par anticoagulant. Enfin voilà, il y a toute une série de stratégies thérapeutiques. Fort heureusement, aujourd'hui, on a beaucoup d'armes pour réduire la rapidité d'évolution de ces maladies cardiaques.
Voilà, Guy Achille, ces réponses du professeur Jacques Blacher, en tout cas qui salue la qualité de votre suivi. Continuez donc à voir votre cardiologue régulièrement pour éventuellement ajuster ce traitement. On vous souhaite une très bonne journée à Yaoundé, Guy Achille, et on va prendre en ligne de Libreville, Crucy. Bonjour, Crucy.
Bonjour.
On vous écoute, Crucy.
Oui, alors moi, je vais parler de mon oncle. Il a eu un AVC en 2006, on va dire, voilà. Mm-hmm. Et il y a 2 semaines seulement, malheureusement, il est décédé. Bon, en fait, après la première attaque, on va dire, quand la maladie s'était révélée, il avait une série de médicaments, mais bon, je ne me rappelle plus. Après, il a fait une seconde attaque, c'est-à-dire des séries de convulsions de genre style épileptique. Donc, on a dû l'amener à l'hôpital général de Libreville, bien sûr, où il a consulté à nouveau un neurologue et un cardiologue qui, après, voilà, il s'est mis à prendre des médicaments Préthérax et Cardégique. Donc, c'est arrivé en 2013. Donc, de 2013 jusqu'en 2018, aujourd'hui, on va dire, il était sous Préthérax et Cardégique. Mais malheureusement, il y a 2 semaines, il a fait une autre série de convulsions et là, ça lui a été fatal. Donc, ma question, c'était, les gens se sont mis à dire que, voilà, le plus souvent, quand vous avez une seconde attaque, si vous voyez, ça finit par vous tuer. Après la première, la seconde attaque d'AVC ou la série de convulsions finit par être fatale. Donc, la question, c'est de savoir, est-ce qu'il y a forcément un nombre précis d'attaques qui finit par vous tuer ou c'est juste des ondits? Et la seconde question, c'est qu'il avait des troubles de mémoire. Il pouvait vous présenter la même personne 17 fois dans la journée, vous parlez de la même chose 6000 fois dans la journée. Donc, est-ce que l'AVC cause aussi des pertes de mémoire, des troubles de mémoire, on va dire? Donc, c'est ça, les deux questions.
Alors, première question, Crucy, est-ce qu'il y a un certain nombre d'attaques cérébrales qui peuvent se révéler fatales? Est-ce qu'il y a une règle en la matière, professeur Blacher?
Non, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle parce que ce qui va donner la gravité de l'accident vasculaire cérébral, c'est effectivement le fait d'en avoir eu précédemment, mais c'est aussi, et je dirais surtout, la quantité de cerveau qui est intéressé par l'accident. On peut faire un tout petit accident vasculaire cérébral, et là le risque d'en mourir est faible, ou alors on peut faire un accident vasculaire cérébral massif, et là effectivement c'est rare de s'en relever. Donc on peut mourir du premier accident vasculaire cérébral, et on peut faire plusieurs accidents vasculaires cérébraux sans mourir.
Deuxième question, elle portait sur les troubles après un AVC. Apparemment, l'oncle de Crucy, qui, on peut dire d'une certaine manière, avait perdu la mémoire.
Alors effectivement, il y a toute une série de symptômes qui surviennent après un accident vasculaire cérébral, au moment de l'accident vasculaire cérébral. Il peut y avoir des symptômes moteurs, c'est-à-dire une partie du corps qui ne fonctionne plus, une hémiplégie. Il peut y avoir des symptômes de sensibilité et il peut y avoir des symptômes des fonctions supérieures. On peut avoir des hallucinations, on peut perdre la mémoire, on peut être extrêmement agité. Bref, tout va dépendre, encore une fois, de la partie du cerveau qui va être lésée et de la possibilité des zones voisines qui sont saines de prendre le relais de la fonction qui a été atteinte par l'accident vasculaire cérébral.
Une fonction de compensation.
Exactement.
Voilà Cruci pour ces deux réponses du professeur Blacher. On vous souhaite une excellente journée à Libreville. On va partir tout de suite pour la RDC, pour Kinshasa, où on retrouve Chani. Bonjour Chani.
Bonjour Caroline Paré.
Une auditrice de Priorité Santé, on écoute votre question.
Bonjour professeur. Ma question réside sur l'hypertension, comme vous êtes en train d'en parler aujourd'hui. Il y a mon père qui est hypertendu, il est sous Amlor. D'abord, il prenait Amlor 5, et maintenant, il est sous Amlor 10. Alors, ma question est de savoir, est-ce qu'il y aurait une répercussion plus tard par rapport à ce traitement, par rapport à ces produits? Est-ce qu'il y aurait des problèmes plus tard? Et en fait, la seule question est de savoir, est-ce qu'il y a moyen de rompre un jour l'hypertension artérielle, c'est-à-dire par rapport à ces médicaments, est-ce qu'un jour il peut guérir de ça et il peut arrêter à prendre ces médicaments quotidiennement?
Question
donc,
de...
Ma deuxième question...
Oui.
Voilà. Ma deuxième question sur ma nièce qui vient de mourir il y a 3 semaines. Au courant de... Enfin, elle est morte après l'accouchement. Bon, durant sa grossesse, elle n'a jamais présenté le cas d'hypertension artérielle. Et subitement, après un accouchement naturel par voie basse, elle a présenté une éclampsie. Et là, les sages-femmes et les médecins se trouvant à l'hôpital, où elle a trouvé la mort. Alors, je voulais savoir, est-ce qu'il y avait autre chose, ou est-ce que l'hypertension artérielle peut se présenter brusquement sans avoir été présentée auparavant, puisqu'on sait que d'abord, il y a la pré-éclampsie, ensuite, il y a l'éclampsie. Et là, on peut comprendre que voilà, la personne était déjà souffrante, mais elle n'a jamais présenté l'hypertension artérielle. Et subitement, il y a eu l'éclampsie.
J'ai juste une petite question avant de donner la parole au professeur Blacher. Chani, dans quelle structure de santé votre nièce avait-elle accouché? À l'hôpital ou dans un centre? Pardon?
Dans un centre de santé.
Dans un centre de santé. D'accord. Alors, deux questions bien distinctes. D'abord, sur le caractère chronique, voire incurable de l'hypertension. C'est le fond de votre première question au sujet de l'état de santé de votre père, Chani. Chani qui demande, son père prend des médicaments. Est-ce qu'il pourra arrêter? Est-ce qu'il pourra guérir?
Alors habituellement, lorsque on a une hypertension artérielle et qu'on est traité par des médicaments, eh bien, on doit prendre des médicaments toute sa vie. Dans de très rares cas, on a des formes d'hypertension artérielle qu'on réussit à guérir, mais ce sont des hypertensions artérielles qu'on appelle secondaires, c'est-à-dire qu'en fait, ces hypertensions artérielles sont secondaires à une autre maladie. Et en traitant l'autre maladie, on guérit l'hypertension artérielle. C'est juste quelques pourcents de tous les hypertendus, donc c'est extrêmement rare. Dans d'autres cas, l'hypertension artérielle est liée directement à un environnement qui fait que si on réussit à suivre une hygiène de vie correcte, eh bien, on réussit à guérir de son hypertension artérielle. On voit ça en particulier chez ceux qui sont des grands consommateurs d'alcool, puisque l'alcool génère de l'hypertension artérielle. Et parfois, lorsqu'on arrive à arrêter l'alcool, eh bien, la pression artérielle revient à la normale. Mais ça, ce sont des cas très très minoritaires. Dans la majorité des cas, l'hypertension artérielle va nécessiter un traitement médicamenteux. Et ce traitement médicamenteux, en fait, il ne faut pas que ça vous inquiète, ça doit même vous rassurer. Parce que lorsque on a une hypertension artérielle et qu'on est traité pour cette hypertension artérielle et que les chiffres de pression artérielle sont contrôlés, eh bien, on a une réduction extrêmement importante du risque de complication de l'hypertension artérielle. On va vivre aussi longtemps que quelqu'un qui n'a pas d'hypertension artérielle et on va vivre avec le même niveau de santé que quelqu'un qui n'a pas d'hypertension artérielle ou presque.
Voilà, Chani, c'est une bonne chose que votre père prenne des médicaments pour son hypertension. L'autre question qui est bien particulière, hypertension pendant la grossesse, voire même accident pendant l'accouchement, ce qu'on appelle une éclampsie, professeur Blacher.
Alors ça, c'est une des complications de l'hypertension artérielle, mais qui est une complication très différente de l'hypertension artérielle commune. On est donc chez une femme enceinte. C'est cette pré-éclampsie, cette éclampsie, c'est pendant la deuxième partie de la grossesse. Parfois, c'est pendant l'accouchement et parfois, c'est dans les 2-3 semaines qui suivent l'accouchement. Ça peut encore arriver après l'accouchement. Ça correspond en fait à une ischémie du placenta. C'est-à-dire que le placenta qui entoure le fœtus va être insuffisamment perfusé par la mère, pour des raisons complexes. Et donc la mère va augmenter sa pression artérielle pour essayer de correctement perfuser son placenta et donc son fœtus. Et cette augmentation de pression artérielle, qui peut être extrêmement brutale, va générer toute une série de complications qui peuvent aller jusqu'à la pré-éclampsie, une souffrance rénale, qui peuvent aller jusqu'à l'éclampsie, c'est-à-dire une crise convulsive généralisée. Et cette éclampsie, elle peut être mortelle, et je dirais même elle est souvent mortelle, surtout lorsqu'il n'y a pas de prise en charge médicalisée satisfaisante. Et donc, cette hypertension artérielle de la grossesse survient en fait le plus souvent chez une jeune femme qui n'a jamais eu de problème de pression artérielle. Parfois, ça survient chez une jeune femme qui a de l'hypertension artérielle, mais le plus souvent, cette femme n'avait aucun problème d'hypertension artérielle avant sa grossesse. Alors, ça arrive de temps en temps, ça arrive plus fréquemment chez les femmes qui sont extrêmement jeunes, ça arrive plus fréquemment chez les femmes qui ont d'autres facteurs de risque, comme par exemple l'obésité, comme par exemple le diabète, mais ça peut arriver chez des femmes qui n'ont aucun de ces facteurs de risque, et ça justifie que pendant la grossesse, il faut suivre régulièrement les femmes enceintes en leur mesurant leur pression artérielle et en recherchant avec une bandelette de l'albumine dans les urines. Et normalement, tout centre de santé doit réaliser ce suivi, prise de pression artérielle et recherche d'albumine dans les urines. Et si jamais il y a un problème qui arrive soit sur la pression, soit sur l'albumine dans les urines, soit les deux, à ce moment-là, faut très vite transférer la femme dans une structure spécialisée, parce qu'il va y avoir des stratégies qui peuvent aller jusqu'à l'accouchement provoqué pour éviter justement cette pré-éclampsie, cette éclampsie.
Voilà pour ces réponses très complètes, Chani. Excellente journée à vous à Kinshasa. On va prendre un dernier auditeur en ligne, c'est Nestor. Hélas, on aura un petit peu moins de temps à lui consacrer, mais on vous écoute quand même, Nestor. Vous êtes en ligne de N'Djamena au Tchad. Bonjour, Nestor.
Bonjour, Caroline.
On vous écoute, Nestor.
Moi, mon souci, c'est par rapport à une hypertrophie ventriculaire gauche qui a été diagnostiquée en 2009. Et confirmé par un spécialiste, un cardiologue, en 2013. Alors, mon souci est de savoir la cause de cette maladie. Est-ce qu'elle est héréditaire et quel traitement approprié pour mon mal, quoi, et un traitement curatif, par exemple.
Et aujourd'hui, Nestor, vous prenez quelque chose pour ces problèmes cardiaques?
Non. Sinon, en 2009, on m'avait prescrit un produit du nom Captopril que je prenais, et après j'ai arrêté. Quand j'ai vu les spécialistes, il m'a soumis à un traitement d'anti-inflammatoire. Mais ça ne m'a pas tellement arrangé, ça me fatigue au contraire.
Et aujourd'hui, vous avez une gêne, vous avez des problèmes ou des douleurs?
Oui, des douleurs persistantes au niveau du thorax. Et il y a des fois où par endroits j'ai le problème des nerfs, un peu une fatigue générale en fait.
Professeur Jacques Blacher, Nestor qui s'interroge sur la prise en charge de son problème cardiaque.
Alors c'est difficile là de faire le point sur son problème cardiaque. On va dire que l'hypertrophie du cœur, c'est souvent une conséquence de l'hypertension artérielle. On va dire dans 90% des cas, c'est une hypertrophie qui est d'origine hypertensive. En traitant l'hypertension artérielle, eh bien, on va réduire l'hypertrophie du cœur et on va aussi surtout réduire son évolution et son évolutivité. Alors après, il y a d'autres maladies qui vont donner une hypertrophie du cœur et qui peuvent donner des symptômes. Parce que, en fait, l'hypertrophie qui est liée à l'hypertension, il n'y a pas de raison qu'elle donne des symptômes. C'est juste une compensation du cœur qui va travailler à haute pression. Mais dans le cas de Nestor, je me demande s'il n'y a pas une autre maladie derrière qui peut expliquer l'hypertrophie et qui peut expliquer les symptômes qu'il a, par exemple les douleurs thoraciques, et vous avez parlé aussi, Nestor, de fatigue. Alors, il y a toute une série de maladies qui peuvent donner de l'hypertrophie avec des substances qui vont en fait envahir la paroi cardiaque, ces substances qui ne devraient pas être là, comme par exemple les substances amyloïdes, c'est ce qu'on appelle l'amylose cardiaque, et de temps en temps, eh bien, l'amylose cardiaque peut donner ce que vous avez, de l'hypertrophie à l'échographie cardiaque, et puis des douleurs dans la poitrine et de la fatigue. Donc je pense que là, ce qui est vraiment important, c'est que vous voyez un cardiologue, même peut-être un cardiologue spécialisé dans ces problèmes de maladie qu'on appelle de surcharge cardiaque, pour faire le diagnostic et pour mettre en route un traitement adapté à votre problème.
Nestor, vous avez les moyens de voir un cardiologue à N'Djamena ? Vous êtes en contact par exemple avec un hôpital ?
Pas avec une clinique.
Avec une clinique, oui.
Oui.
Et vous pouvez consulter un cardiologue sur place ?
Bon, là... Je vais essayer, sinon je parle, parce que j'ai essayé, ça n'a pas donné de bons résultats et là je cherche peut-être à voir d'autres cieux pour voir est-ce que je peux avoir quelqu'un qui pourra directement intervenir dans le domaine du surcharge cardiaque.
D'accord, en cardiologie au niveau de N'Djamena, la capitale. Très bonne journée à vous Nestor à N'Djamena. On va toujours parler hypertension, AVC, prévention. On part tout de suite pour la Tunisie.
Priorité santé sur RFI.
Pour retrouver tout de suite le professeur Leïla Habib. Bonjour professeur.
Bonjour et merci pour l'invitation.
C'est bien normal, vous êtes secrétaire général de la Société tunisienne de cardiologie à Sfax. Est-ce que vous avez des données, professeur, en ce qui concerne les maladies cardiovasculaires en Tunisie ?
Effectivement, donc les maladies cardiovasculaires et en particulier les maladies coronaires, comme à l'instar de ce qu'on est en train de voir en Europe, sont de plus en plus fréquentes et malheureusement, ils représentent la première cause de mortalité en Tunisie. En effet, à peu près 30% des décès en Tunisie, on les attribue à ces maladies cardiovasculaires. Donc, vraiment, ils sont de plus en plus fréquents.
Est-ce que vous attribuez cela à des changements d'habitude, par exemple, au niveau de la qualité de vie, davantage de personnes en milieu urbain, davantage de sédentarité, des changements d'alimentation aussi ?
Oui, effectivement, malheureusement, l'augmentation de ces maladies cardiovasculaires en Tunisie, elles sont dues à l'augmentation de ces facteurs de risque cardiovasculaire et ces mauvaises habitudes, quelles que soient alimentaires ou de vue, qui sont malheureusement mal contrôlées.
Le tabagisme aujourd'hui, également
Oui, aujourd'hui, malheureusement, la situation épidémiologique en Tunisie est alarmante. Parce que la population tunisienne, c'est une population de tabagiques. Nous sommes malheureusement les champions d'Afrique en matière de tabagisme. 50% des hommes fument, 15% des femmes et 20% des adolescents. Et aussi, donc, ça rend notre population à haut risque vu le tabagisme, mais aussi vu la prévalence de l'hypertension artérielle. Aujourd'hui, on a un Tunisien sur trois est hypertendu, âgé de plus de 20 ans. Nous avons aussi une population où on a une endémie de diabète. La proportion de diabétiques est plus importante même des pays européens. À peu près, on a 15% de population tunisienne adulte et diabétique. Et si on regarde le prix de diabète, on sera dans une situation plus dramatique. Donc là, vous avez bien constaté qu'on a une population qui a très haut risque cardiovasculaire, où on voit beaucoup de maladies cardiovasculaires, aussi parce que le Tunisien, c'est un grand consommateur de sel, malheureusement. Nos besoins quotidiens, la personne, elle a besoin par jour de 5 à 6 grammes par jour de sel, le Tunisien, il consomme à peu près 14 grammes par jour, c'est-à-dire en moyenne 2 à 3 fois ses besoins. Et du moment qu'on est de grands consommateurs de sel, la population est devenue à haut risque d'augmentation de la prévalence de l'hypertension artérielle et donc des maladies cardiovasculaires.
Ça veut dire, professeur Leïla Habib, un gros effort à faire sur la prévention, sur la sensibilisation.
Oui, certainement. La prévention des maladies cardiovasculaires doit être au cœur de notre politique de santé. Parce que, comme vous l'avez senti, c'est vraiment la situation épidémiologique en Tunisie, elle est très inquiétante. Et là, en matière de prévention cardiovasculaire, la Société tunisienne de cardiologie, dont je suis la secrétaire générale, s'est impliquée avec le grand public pour essayer de le sensibiliser à connaître ses facteurs de risque, de les contrôler, à changer ses habitudes alimentaires. Donc, pour cela, on a en fait développé des spots qui passent à la télé et dans des chaînes à grande audience, donc pour sensibiliser les gens. On organise aussi des journées mondiales du corps, comme vous, donc votre émission, je pense qu'elle est
liée à cette actualité de samedi, effectivement.
Ça, c'est le 29 septembre.
Exactement.
Et donc, chaque journée mondiale du corps, on organise une action qui a un slogan particulier pour sensibiliser les gens. Par exemple, l'année dernière, l'objectif de notre action, c'est de sensibiliser les gens sur l'intérêt de l'activité physique, de lutter contre la sédentarité. Et notre slogan était les cardiologues marchent avec le patient, les cardiologues donnent l'exemple. Et donc on a fait une marche, un marathon avec nos patients pour les encourager à faire l'activité physique. Nous avons aussi, dans le même sens, en matière de prévention, puisque nous sommes de grands consommateurs de sel en Tunisie, parce qu'on est de grands consommateurs de pain. Et l'apport, et 20% d'apport de sel par jour, il vient du pain. Et pour ça, nous avons pensé à lancer ce qu'on appelle le pain allégé en sel. C'est-à-dire, la baguette, elle va comporter 2 grammes de sel au lieu de 5 grammes.
Donc ce sont des mesures très concrètes pour changer les habitudes. Je suis navrée, professeur Leïla Habib, je suis forcée de vous couper pour des questions de temps. On a encore des questions, d'autres contacts à faire parler pendant cette émission. En tout cas, je rappelle que vous êtes secrétaire générale de la Société tunisienne de cardiologie à Sfax. On vous retrouve en studio, professeur Jacques Blacher. Il y a un point qu'on n'a pas évoqué pendant cette émission, je voudrais qu'on y revienne. C'est juste sur les conduites à tenir face à quelqu'un qui fait un malaise cardiaque. D'abord pour la personne qui le ressent, les signes qui ne peuvent pas tromper, et puis face à cette personne, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que ça peut arriver au quotidien.
Alors effectivement, tout va dépendre de l'état de conscience. Est-ce que la personne est encore avec un état de conscience vigilant ou est-ce qu'il a perdu connaissance ? Si le patient est en état de conscience, s'il est vigilant, à ce moment-là, il faut essayer rapidement de faire un diagnostic pour savoir s'il a mal quelque part, s'il souffre, s'il a mal dans la poitrine, est-ce qu'il fait un infarctus, est-ce qu'il a des difficultés à bouger une partie de son corps, est-ce qu'il fait un accident vasculaire cérébral, et ce sont les deux maladies les plus fréquentes dans ces situations de malaise, par exemple sur la voie publique. Alors il faut savoir que lorsqu'on est en train de boucher une artère, que ce soit une artère du cerveau ou une artère du cœur, chaque minute va compter. Parce que les stratégies qui sont les plus efficaces sont les stratégies qui vont ramener du sang au tissu en souffrance, c'est-à-dire qui vont déboucher l'artère, soit en aspirant le caillot au niveau du cerveau, soit en dilatant l'artère au niveau souvent de l'artère coronaire. Et donc ça veut dire qu'il faut impérativement appeler les secours le plus vite possible pour que ce patient puisse être transféré dans une structure de soins intensifs, soit cardiaque, soit neurovasculaire. Et puis après, si le patient a perdu connaissance, eh bien on est dans une situation où il faut impérativement voir si son cœur bat, s'il respire, pour déclencher les procédures de réanimation cardio-respiratoire. On ne va peut-être pas s'étendre là-dessus.
Massage cardiaque, tout ça, ça fait partie d'une procédure assez complexe, je ne peux pas le dire comme ça en quelques minutes,
voilà.
C'est trop difficile.
Oui.
Mais en tout cas, on le sait qu'il faut agir, c'est une urgence absolue face à quelqu'un. Le premier geste, en tout cas, c'est de prévenir les secours.
Tout à fait.
C'est la chose la plus importante. Merci beaucoup. On aurait pu parler encore longtemps de cette santé cardiovasculaire. On aura l'occasion d'y revenir, bien évidemment. Merci à vous, professeur Jacques Blacher, d'avoir répondu à l'invitation de Priorité Santé. Je rappelle que vous êtes cardiologue, spécialiste d'hypertension, chef de service du centre de diagnostic et de thérapeutique à l'hôpital de l'Hôtel Dieu de Paris, professeur à l'université Paris-Descartes.
Et dans Priorité Santé, on s'arrête maintenant sur les activités de l'association Chirurgie Solidaire. Pour en parler avec nous, le docteur Daniel Tallard. Bonjour docteur.
Bonjour madame.
Vous êtes chirurgien, vous présidez cette association qui existe depuis plus d'une dizaine d'années, 13 ans déjà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la vocation de votre association?
Alors, notre association est une association qui regroupe des chirurgiens, des anesthésistes et des infirmières de bloc opératoire et dont le but essentiel est la formation. La formation sur place, dans les pays qui nous le demandent, en dehors des conditions d'urgence bien entendu. Et notre but est de former des médecins, je dis bien des médecins, à la chirurgie de base pour que ces médecins ensuite soient envoyés dans les hôpitaux de district où il manque cruellement de compétences chirurgicales.
Alors, voilà combien de missions à ce jour pour votre association, docteur Daniel Tallard? Est-ce que vous pouvez nous préciser dans quel pays?
Alors, les missions, il y en a eu à peu près 70. Alors, les pays principaux où nous sommes déjà intervenus, c'est la Guinée, par exemple, le Congo, Brazzaville, la République démocratique du Congo, le Cameroun, le Bénin, et actuellement nous avons d'autres demandes pour le Comore, Madagascar, le Cameroun, etc. Donc on répond essentiellement dans les pays africains, on répond aux besoins dans les pays africains, et les missions sont des missions de 15 jours, qui se répètent environ 2 à 3 fois par an, et si vous voulez, l'essentiel de ces missions étant la formation, les médecins que nous formons deviennent à leur tour des formateurs. Si vous voulez, la coopération nord-sud ensuite se substitue à une coopération sud-sud. Voilà, c'est un petit peu les formés deviennent formateurs. Voilà le but de notre association.
Vous formez des médecins, on a parlé de chirurgie, mais aussi vous êtes là pour apprendre l'anesthésie, les tâches particulières d'une infirmière de bloc opératoire.
Voilà,
c'est un travail d'ensemble.
Voilà, tout à fait. C'est indissociable. C'est-à-dire que lorsque nous partons en mission, il y a toujours un chirurgien, un infirmier, une infirmière de bloc opératoire. Parce que souvent, si vous voulez, d'abord, il manque aussi de chirurgien, mais il manque aussi d'anesthésiste. Et les conditions locales sur le plan hygiène, quelquefois, ne sont pas parfaites. Et l'infirmière de bloc opératoire a un rôle essentiel dans la remise à niveau dans les petits hôpitaux de district des conditions d'asepsie que l'on connaît chez nous.
Il nous reste moins d'une minute. Je voulais vous poser une question très concrète. Comment ça se passe? Qui fait la demande justement pour voir arriver vos équipes dans un pays, dans une région particulière?
Alors c'est en général un hôpital et un chirurgien dans cet hôpital qui a entendu parler de ce que l'on fait. Nous passons une convention avec l'hôpital, souvent sous l'égide des autorités sanitaires locales qui sont incontournables. Et une fois que cette convention est signée et qui définit le protocole de coopération, nous envoyons la mission pour, je vous dis, 15 jours, renouvelable plusieurs fois par an et voire sur 2-3 ans.
Merci beaucoup.
Jusqu'à ce que les gens soient autonomes.
Merci beaucoup Daniel Tallard. Docteur Tallard, je rappelle que vous êtes président de l'association Chirurgie Solidaire. Je redonne la parole quelques secondes au professeur Blacher qui avait quelque chose à ajouter.
Oui, je voulais juste faire un petit commentaire. J'ai été extrêmement impressionné par l'énergie, par l'enthousiasme du professeur Leïla Habib.
Qu'on avait tout à l'heure en ligne de Tunisie.
Oui, la représentante de la Société tunisienne de cardiologie, avec ses actions pour promouvoir l'activité physique en population, pour réduire la consommation de sel. Je voudrais juste faire un tout petit commentaire. Si on veut avoir un impact en population, il faut une double action, à la fois du corps médical, mais aussi des pouvoirs publics qui doivent nous aider.
Importance aussi, le message politique, pouvoir public pour la santé cardiaque. On se retrouve demain dans Priorité Santé.
C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance. Célébrez nos 20 ans d'assurance en découvrant votre profil sur monbonprofil.com. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.